sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et encore cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour, Donald.
Bonjour, Marc.
Alors, on aura un invité spécial à présenter dans quelques instants.
Très sollicité de par les temps qui courent.
On verra qu'on est très chanceux de l'avoir. Mais avant de présenter notre invité, ben, j'aime toujours rappeler à nos auditeurs, auditrices, qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes et en cliquant sur « Poser vos questions ». On peut transmettre ces questions par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Et quand on n'a pas l'occasion de répondre à l'émission même, on le fait dans les émissions ultérieures. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et ben, avant de présenter notre invité, Donald, on aime bien revenir sur les sujets d'actualité. D'ailleurs, tu as été panéliste dans un événement récent, les Assises québécoises du secteur maritime. Peux-tu nous en parler quelques instants?
Oui, donc c'est un événement annuel. Tous les acteurs du fleuve Saint-Laurent qui sont là pour le développement économique, j'étais sur un panel. Puis le panel, c'était entourant l'acceptabilité sociale, donc mairesse suppléante de Québec, le maire de Trois-Rivières qui était là. Fait que, j'ai vraiment apprécié parce que quand on regarde ce que les autres font, on regarde ce qu'on fait aussi, des fois, on réussit à prendre du recul et il faut voir qu'en tout cas, on fait quand même beaucoup de choses à Bécancour et puis cette émission-là en fait partie. Hein, mm-hmm. Parce que l'acceptabilité sociale, on se le dit souvent, on ne peut pas demander aux gens d'accepter quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
Donc l'information.
Oui, donc l'information, faire comprendre les choses. Fait que c'était une belle occasion de parler d'acceptabilité sociale puis de discuter, de présenter aux gens à l'auditoire ce qui était fait par le parc industriel qui n'est pas parfait, mais on en fait beaucoup, puis je pense qu'on se distingue par la quantité d'actions qu'on fait dans le milieu.
Donc, une belle présence de la SPIB à cet événement.
Oui, vraiment apprécié. C'était bien agréable comme échange.
Il y a eu un article dans la presse sur Nemaska Lithium. Le titre, c'était « Des signaux rouges ont été ignorés par Québec ». Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là?
Bien, ce qu'il faut, en tout cas, moi, je suis plus du genre à regarder en avant. Donc, Rio Tinto a acquis une portion importante de Nemaska Lithium, et puis ces gens-là, un processus d'acquisition, ça se fait sur une très, très longue période. Il y a des revues diligentes qui se font. Ce qui est important, c'est que Rio Tinto ait acheté ça avec en pleine connaissance de cause, que je suis convaincu qu'ils ont fait. Et puis, avec le montant payé, ils pensent qu'il y a un business case devant eux. Fait que s'il y a un business case pour Rio Tinto, il y a un business case aussi pour le gouvernement du Québec. Fait que donc, c'est le point de vue que j'ai là-dessus. Mm-hmm. Tous les projets, en tout cas la majorité des projets de Bécancour, on fait face à des augmentations de coûts. Celui-là n'est pas différent. Il y a sûrement une question à se poser là-dessus. Je vais justement participer à une activité là-dessus le 9 juin pour parler un peu de cette réalité-là au Québec par rapport aux projets industriels qui mm-hmm. dépassent souvent les coûts, voir quelle piste de solution on pourrait avoir. Fait que ce projet-là, c'est pas le fun à dire, mais il n'est pas nécessairement différent des autres. Puis ce qui me manque confiance, c'est la décision de Rio Tinto Alcan. Rio Tinto, excusez, qui appuie le projet puis qui va de l'avant.
Il y a le sérieux des joueurs impliqués là, qui te rassure.
Exactement.
Puis autre sujet d'actualité, il y a aussi Honda, on apprenait la possible annulation du projet en Ontario. Prévoit suspendre la construction d'une usine de véhicules électriques au Canada. Bon, déjà une nouvelle qui dit, bon, ça va pas bien dans le véhicule électrique, quoi que ce soit. Comment tu réagis par rapport à cette nouvelle-là?
Si je regarde la position canadienne, je me dis, bon, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce qu'on aimerait toujours avoir des investissements intéressants partout. Si je regarde point de vue Québec, ben je me dis, OK, nous, notre carrefour à nous, à Bécancour, tient la route encore. Malgré les difficultés, on avance encore moins rapidement, mais on avance encore. Et aussi, clin d'œil, mais il faut toujours se rappeler aussi ce qui se dit et ce qui se passe. Hein, il y a à peu près un an, les gens critiquaient que le Québec avait échappé à Honda. Mm-hmm. Le projet d'Honda, ils l'ont annoncé en Ontario, puis il n'a pas démarré. Il faut que les gens voient. Moi, j'espère que les gens voient qu'à Bécancour, on avance mm-hmm. encore, puis on les a, les usines sont mm-hmm. construites. Alors que Honda, c'est une promesse d'investir qui ne s'est pas concrétisée. Je me réjouis vraiment pas de ça. Parce que l'idéal, ça aurait été que ça aille de l'avant parce que les projets ne peuvent pas tous arriver au Québec, ne peuvent pas tous arriver à Bécancour. Faut être logique. Mais c'est quand même ça qu'il faut retenir. Régionalement, il faut retenir que les projets sont là, sont ancrés, à part EcoPro qui est sur pause. Les autres avancent tous moins rapidement, reportent mm-hmm. tous leur mise en service d'un an. mais ont encore des perspectives en vue pour Bécancourt.
Puis on aura sûrement l'occasion d'en parler avec notre invité que je t'invite à nous présenter.
Ben oui, le hasard fait bien les choses. Je l'ai croisé. Moi, je suis allé juste une fois à des économies, mais lui est là régulièrement. Puis on s'est rendu compte qu'on était deux anciens d'Hydro-Québec et puis on s'est mis à échanger très, très vite sur des questions énergétiques. Ben, donc, l'invité aujourd'hui, c'est Yvan Clich. Yvan Clich, ancien d'Hydro-Québec, mais fellow chercheur en énergie du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Donc, merci d'être là, Yvan. On sait que tu es très, très sollicité de ce temps-là.
Merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir.
Puis Yvan, qui est auteur d'un livre aussi sur la géopolitique de l'énergie, dont le titre exact est...
C'est « Enjeux et conflits énergétiques portant sur des hydrocarbures et de la transition énergétique. »
Donc, un sujet assez chaud. Merci en 2026. Donc, c'est très approprié. Très, très content. Hein? Je pense que Donald, on se le disait, on est vraiment privilégiés de l'avoir avec nous, étant donné qu'Yvan est assez occupé.
Oui, par le temps qu'il écoute, avec Yvan, on jasait, je pense, l'automne dernier d'une présence ici, mais l'automne dernier, il n'y avait pas de crise. Donc, ton agenda était plus libre. Merci de te prêter au jeu malgré ton agenda qui s'est un peu rempli, il faut dire, avec les crises, la crise qu'on vit depuis le début de l'année.
D'ailleurs, Yvan, bon, on a évoqué cette histoire de Honda qui prévoit suspendre la construction d'une usine de véhicules électriques au Canada. Ton opinion là-dessus?
Moi, je pense que c'est une des victimes là, de l'imprévisibilité et du chaos qui est instauré dans l'économie internationale par l'administration actuelle à Washington. Il faut quand même se rappeler que il y aurait eu beaucoup plus de chances qu'un tel projet et que la transition énergétique prenne une grande accélération si l'équipe démocrate avait été élue, si Mme Harris avait pris les rênes à Washington. Rappelons-nous que les Américains étaient, entre guillemets, « all in » pour des technologies propres. Ils avaient adopté une loi phare qui s'appelle l'Inflation Reduction Act qui donnait des crédits très importants pour le développement des technologies décarbonées. Et assurément, donc, il y aurait probablement une grande mouvance là, pour l'électrification et pour en faveur de la transition énergétique. Et puis, M. Trump a fait deux choses. C'est que d'une part, il n'est pas du tout dans ce registre-là, dans ce projet de transition énergétique. Et il a instauré des tarifs qui défont, dans le fond, ou qui jettent beaucoup d'incertitudes sur les chaînes d'approvisionnement dans le domaine de l'automobile. Alors, il faut se croiser les doigts. C'est certainement une mauvaise période à passer. Mais moi, je pense que là-dedans, il faut quand même miser sur le moyen et long terme. L'électrification, elle est inéluctable. On va y arriver. Ça va être plus dur que prévu. On le voit maintenant, ça va être politisé. Donc, il faut être sur ses gardes. Et ça milite justement pour ce que Donald mentionnait tout à l'heure. C'est il faut en parler davantage. Il faut vraiment faire valoir les bienfaits de cette transition. Et elles sont importantes. Sans compter que c'est une chance aussi pour le Québec de laisser sa marque comme on le fait avec le développement de l'hydroélectricité. On est devenu les meilleurs au monde. On est devenu une référence. On a encore cette possibilité-là qu'avec l'électrification de devenir les meilleurs et de bâtir un complexe industriel qui nous porte comme des gens qui sont avant-gardistes dans le domaine de l'électrification de l'économie.
Oui, puis peut-être pour rebondir, on parlait, Yvan, que le ralentissement des investissements, mais c'est pas juste sur la transition énergétique. Hein, donc, le parc industriel, on accueille toutes sortes de projets, puis c'est vraiment généralisé. C'est la fameuse taxe à l'incertitude, ou en tout cas la pénalité, ce qu'on vit avec cette incertitude-là, c'est les gens ne bougent pas, les gens ne se mettent pas en action. Ça fait que donc, c'est vraiment... C'est plus large.
C'est paralysant.
Oui, c'est paralysant. Personnellement, on voit depuis un mois à peu près, on voit que les investisseurs s'activent. Je recommence à avoir des discussions avec des investisseurs qu'on dirait que les gens se disent « OK, il faut qu'il y ait une fin un jour, il faut se remettre en action. » Et peut-être que les élections de mi-mandat viennent aussi motiver les gens de commencer à se préparer aux résultats qu'on attendrait tous.
Peut-être aussi, Yvan, bon, évidemment, on est dans un contexte guerre États-Unis-Iran, la pression, évidemment, sur le coût du pétrole. Toi, dans ta lorgnette... Malgré que même si on avait un règlement entre les deux pays dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est pas demain matin que les prix vont baisser au niveau du pétrole.
Non, l'année 2026 est une année perdue pour le secteur énergétique. Ça aurait été une année malheureusement d'augmentation importante des coûts, minimum 25% d'augmentation que ça va perdurer même si le conflit prend fin prochainement. Et c'est clair que ça va, ça porte une certaine inflation. Donc, ça aussi, c'est un enjeu auquel doit faire face là, tout le secteur économique et industriel du Québec. Il y a, tout ce qui se transporte va coûter plus cher parce que la retour à la normale dans cette région-là, va prendre beaucoup de temps parce qu'on parle de plus de 1500 navires qu'il faudra refaire circuler dans une bande étroite sur le plan maritime. Et il y a des installations qui ont été endommagées, donc ça va prendre peut-être des mois et des années avant que ça soit réparé. Et puis, par ailleurs, est-ce que l'Iran va mettre un droit de passage? Donc, tout ça concourt vers une augmentation des prix du pétrole et du diesel qui va donc se répercuter dans les coûts de transport et donc, évidemment, aussi dans l'inflation en général. Alors, c'est un autre enjeu là, qui a été créé de toute pièce par les politiques étrangères, très, très difficile à suivre et à comprendre de Washington.
Mais du côté ici, bon, au Canada, quand même, il y a une réaction stratégique de la part du gouvernement Carney. Comment tu l'évalues, cette stratégie-là? Bon, il y a quand même une diversification des partenariats. On sent que M. Carney veut aller faire des affaires ailleurs aux États-Unis aussi pour multiplier tout ça. Comment tu vois cette stratégie-là?
Bien, M. Carney a pris la mesure du changement d'époque dans lequel nous sommes plongés. Nous avons connu au cours des 30 dernières années, on le sait, un monde qu'on qualifiait de libéral, où on a libéralisé le commerce, on a bâti des chaînes d'approvisionnement mondialisées qui ont concouru à garder l'inflation à un niveau très, très peu élevé. Souvenons-nous que nous avons connu une inflation à presque 0 % pendant de très longues périodes et on pensait que c'était presque acquis pour toujours. Et ça, c'est dû justement à cette efficacité qu'on a voulu bâtir à travers des chaînes d'approvisionnement mondialisées et ou qui permettait aux entreprises de produire partout dans le monde pour minimiser les coûts. Alors, ce monde-là, c'est terminé. Les grandes puissances sont comme, entre guillemets, décidées, là, autant la Russie en envahissant l'Ukraine que l'attitude politique américaine, notamment avec la venue de M. Trump. Ils ont comme décidé là, de botter en touche et puis de faire en sorte que maintenant, les règles du jeu sont complètement bouleversées. Alors moi, je pense que M. Carney a pris la mesure de ce nouveau monde. Et puis, ben, comme les États-Unis et la Chine et la Russie exploitent les vulnérabilités qui sont créées par les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement, comme ils ont décidé de les exploiter politiquement, ben nous, effectivement, il faut prendre la mesure de ça. Et puis, commercer ailleurs et créer des alliances entre puissances moyennes. Moi, j'y crois. Je pense que c'est un beau projet. Et ce que j'aimerais, c'est que le Canada devienne vraiment le leader de ce nouveau mouvement, un mouvement d'alliance et de commerce entre des puissances moyennes, l'Europe du Nord, des pays en Asie, etc.
Donald?
Ben, peut-être, Yvan, tu parlais tout à l'heure l'administration américaine, un peu tout ce qu'ils font, puis qui est un peu contraire au gros bon sens. Fait que donc, on se dit tous qu'à un moment donné, le gros bon sens va revenir, et puis toi, tu es chercheur, tu parles probablement à d'autres chercheurs de partout dans le monde où tu lis certainement. Fait que comment les chercheurs d'ailleurs dans le monde ou des États-Unis perçoivent cette situation-là? T'sais, nous, on la perçoit carrément pas logique et puis ils font fausse route. Au moins, est-ce que le côté
rationnel,
le côté rationnel ou le côté chercheur de l'autre côté de la frontière se rallie sur quelque chose ou ils se prononcent pas par crainte de représailles?
Ce que je pense qui s'est produit dans le monde, c'est que Washington, l'administration actuelle, a produit un tel traumatisme sur l'économie mondiale que il y a eu une rupture de confiance qui va mettre énormément de temps avant d'être réparée. Alors, même si les démocrates venaient au pouvoir, qui nous dit pas que dans quelques temps, les républicains, eux, reviendraient avec peut-être même des positions plus féroces? Qui sait? Alors, moi, je pense que les États-Unis ont imprimé une cassure et que même si on avait une administration plus facile avec laquelle composer à Washington, la confiance n'est plus présente. Alors moi, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est ça la position de M. Carney, c'est de dire, écoutez, vous avez agi de façon extrêmement maladroite avec le Canada et aussi avec vos alliés. En fait, les alliés des États-Unis ont été plus maltraités que les ennemis traditionnels. Donc moi, je pense qu'il faut donc travailler et œuvrer en prenant pour acquis que c'est ce monde dans lequel nous allons maintenant opérer.
Mais déjà, on est rendu à la pause. Ça va vite dans cette émission. Alors, après la pause, On ira voir avec notre invité Yvan Klisch du Cerium. Qu'est-ce qui attend peut-être dans l'avenir Bécancour avec les nouvelles, sans dire les nouvelles filières, mais les nouveaux créneaux qu'on semble vouloir développer au Canada, entre autres au niveau militaire. Alors, on reviendra après la pause pour parler, entre autres, de la Banque de la Défense aussi. Et donc, on est avec Yvan Klisch du Cerium et toujours avec Donald Olivier de la SPIB. Alors, restez des nôtres et après la pause, on revient avec nous deux minutes.
On est avec Janie Montreuil de Sojetel Affaires. Bonjour.
Bonjour, Rosée.
On sait que Sojetel est une entreprise de chez nous, bien implantée dans la région, mais pourquoi c'est un avantage de faire affaire avec vous?
Le service local et notre accompagnement fait toute la différence. On prend le temps d'évaluer chaque dossier avec minutie puisque chaque solution est personnalisée.
Et qui dit entreprise locale dit proximité avec les clients.
Absolument. Notre présence sur le territoire et la proximité avec nos clients nous permettent de mieux comprendre le contexte spécifique de l'entreprise, son secteur, sa taille, ses priorités. On ne propose pas la même solution à une PME qu'à une grande entreprise.
Et au quotidien, c'est quoi l'avantage le plus concret?
C'est la réactivité. Quand une question ou un enjeu survient, le fournisseur local peut intervenir rapidement et efficacement. Au-delà de la technologie elle-même, choisir un service local, c'est s'assurer d'un accompagnement humain, rapide et réellement adapté à sa réalité.
Et pour plus d'informations, on va sur quel site?
Sojetel.com.
Merci, Janie.
Merci, Rosie.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes donc de retour avec Yvan Klisch du Cerium, spécialiste en énergie, et Donald Olivier, évidemment, de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. On avait évidemment, en première partie de l'émission, parlé de l'impact de l'administration Trump sur tout ce qui se passe au niveau énergétique et économique. Mais on en était rendu aussi avec la stratégie Carney, mais aussi dans cette stratégie Carney, il y a aussi l'aspect de la défense, du militaire. Donc, ce filon-là, disons-le comme ça, Yvan, est-ce que c'est un filon qui te semble prometteur?
Bien, c'est certainement prometteur parce que je pense qu'on a déjà une base, une certaine base industrielle au Québec là, pour faire face à l'augmentation de la demande en dépenses militaires. On le sait, M. Carney, dans son discours de Davos, ce qu'il a dit, c'est que ben, soit on est à la table ou soit on est dans le menu. Mm-hmm. Et puis moi, je pense que trois endroits où on va vraiment, tous les États, mais également le Canada, vont vouloir accentuer leur souveraineté ou leur autonomie. Ça va être, bien sûr, sur le plan alimentaire. Hein, un pays doit le plus possible être autonome. Sur le plan alimentaire, il y a également aussi du côté énergétique. Mm-hmm. Plus un pays est souverain énergétiquement, moins il est vulnérable. Sur le plan géopolitique, on le voit dans la situation Exactement. Actuelle, presque 80% de la population mondiale vivent dans des pays qui dépendent du pétrole et du gaz venant de l'extérieur. Et on voit comment mm-hmm. la situation actuelle les met en situation de pénurie énergétique. Et puis, il y a également la souveraineté militaire. Mm-hmm. Et puis ça, c'est vraiment une découverte un peu aussi pour nous au Canada.
C'est tout nouveau,
on le sait. On s'est fié au parapluie américain. C'est pas nécessairement, moi, je pense, une erreur, parce que les Américains étaient d'accord avec cette tâche. Mm-hmm. Ils ont installé des bases militaires dans le monde. Personne ne les a forcés à le faire. Mm-hmm. Ils l'ont fait. Ils acceptaient de bon aloi ce rôle-là de police militaire dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et M. Trump, ben lui, il dit je veux plus faire ça. Mm-hmm. Bon, mais à partir de là, moi, je pense que c'est un axe de développement intéressant pour le Canada. Puis de toute façon, quelque part, c'est aussi une bonne chose de renforcer notre secteur militaire dans le pays qui, comme on le sait, s'était un peu dégradé là, au cours des dernières décennies.
Bien, sur le secteur militaire de la défense, c'est ça, je pense que c'est quand même bien parce que probablement plein d'entreprises existantes pourront avoir des opportunités sur ça. Donc, peu importe ce qu'ils font, si ça s'insère et se qualifie pour avoir des retombées économiques, mais il peut y avoir aussi des projets quand même industriels costauds, tu sais, parce que les minéraux critiques et stratégiques, depuis près d'un an, on l'a observé quand même assez tôt, même avant le discours de Carney à Davos, mm-hmm. C'est que les entreprises qui travaillent à transformer, valoriser les minéraux critiques et stratégiques veulent dorénavant avoir plus qu'une porte de sortie pour écouler leur production. Donc, d'aller vers l'électrification des transports, c'est toujours une porte privilégiée, mais aussi d'avoir des opportunités vers la défense. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein d'usages possibles des minéraux critiques et stratégiques dans la défense. Fait que c'est une tendance lourde qu'on observe, carrément une gestion de risque par rapport à la crise qui est observée de l'autre côté de la frontière. Puis juste pour rebondir, tu sais, quand Yvan parlait de l'autonomie énergétique, il faut se dire les vrais trucs, là. Toute l'énergie qu'on exporte au sud, ben c'est les opportunités qui vont aller là. C'est l'énergie, mm-hmm. elle est là.
Ouais,
c'est donc
ça.
L'énergie qu'on ne garde pas ici pour créer de la richesse ou créer des retombées économiques, ben c'est de l'autre côté de la frontière que ça va se passer. Ça fait que donc, je suis convaincu aussi que toutes les ententes d'Hydro-Québec qui sont vraiment sur du très, très long terme, il y aura beaucoup de questions qui vont se poser quand ils vont arriver à les renouveler.
Donc, Yvan, le Québec et dont Bécancour peut tirer, selon toi, son épingle du jeu dans cette... dans cet investissement massif dans le domaine militaire?
Ah ben absolument. Moi, je vois pas. Je pense que justement, créant ici un tissu industriel de qualité et une série également de un écosystème attractif. Déjà, Bécancour a prouvé que c'était un endroit attractif en faisant tous ses efforts, en attirant autant de joueurs de qualité. Alors moi, je pense que c'est effectivement tout le secteur des minéraux critiques, éventuellement de la défense. Ça reste extrêmement porteur pour l'économie locale, pour l'économie québécoise. Il ne faut pas oublier que le secteur militaire, c'est un secteur de milliards de dollars.
Mm-hmm.
On parle vraiment toujours d'investissements stratégiques, des investissements également de haute technologie. Ça attire donc des bons cerveaux. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement porteur. Je vais rappeler une anecdote là, qu'on connaît un peu tous. Beaucoup des innovations que nous employons dans la vie de tous les jours, c'est né d'investissements militaires.
Mm-hmm.
Donc, imaginez justement toute cette capacité d'innovation qu'on peut tirer même en s'investissant davantage dans le secteur militaire. Moi, je pense que c'est littéralement un axe profondément stratégique pour le Québec et on a d'excellents atouts pour faire notre marque dans le secteur.
Puis on sait que dans le parc en 30 minutes, depuis quasiment une soixantaine d'émissions, Donald, plus d'une fois, on a évoqué les atouts du parc industriel. Les infrastructures sont là, mais aussi le port qui est là. Oui. Donc, si on veut accueillir des entreprises, on est prêt. Là.
Oui, oui. Puis le port, évidemment, avec Bécancour, on est là pour offrir les services aux entreprises pour Québec en général. Mais tu sais, la semaine passée, c'était les assises là, maritimes. Mais tu sais, toutes les ports du corridor Saint-Laurent, même Grand Lac, sont stratégiques, mais vont devenir de plus en plus stratégiques parce que clairement, réduire la dépendance avec nos voisins du Sud va passer par tisser des liens avec nos partenaires à l'extérieur. Et puis, le transport maritime est déjà important puis va, selon moi, prendre encore plus d'importance. Et puis, il faut toujours se souvenir que des nouvelles opportunités, ça peut être ailleurs dans le monde, mais ça peut être aussi de tirer profit des opportunités qu'on a chez nous. Donc, les fameux transports de marchandises courte distance à l'intérieur du Québec, tu sais, donc tous les minéraux critiques qui pourraient... Les minéraux critiques du nickel qui part aujourd'hui, qui s'en va ailleurs dans le monde sans être traité. Là, tu sais, donc, le nickel du nord du Québec pourrait descendre par bateau au sud et puis être traité, valorisé, après être écoulé chez des pays partenaires, donc des pays avec qui on a des ententes. Fait que c'est sûr que le corridor, tant qu'à moi, il est vraiment majeur, tu sais, parce que l'Ontario n'a pas la qualité de ce corridor-là parce que mm-hmm. c'est pas 12 mois par année, grosseur des navires et tout ça. Ça fait que le Québec, on est vraiment très bien positionné pour cette porte d'entrée-là qui va servir pour les projets de défense comme plein d'autres filières.
Autre élément intéressant, Yvan, aussi la nouvelle banque de la défense, de la sécurité, oui. de la résilience. Peut-être nous rappeler c'est quoi cette banque-là en quelques secondes, mais aussi... c'est le Canada qui sera le siège de cette banque, puis peut-être même le Québec, ça c'est pas encore déterminé, mais...
C'est un geste de très grande confiance qu'a donné la communauté internationale envers le Canada. Je pense que là-dessus, sans aucune partisanerie, c'est dû au leadership de M. Carney.
Mm-hmm.
On prend la mesure d'un nouveau monde, on sait qu'on doit tous investir davantage dans notre secteur militaire, puis là on regarde la palette de pays où on pourrait installer cette banque-là. Or, M. Carney, lui, a clairement pris le leadership des nations de puissance moyenne pour dire ben il faut maintenant s'allier, travailler ensemble. Je pense qu'il a fortement contribué à éveiller les consciences, à nous faire basculer dans ce nouveau monde, véritablement dans lequel nous sommes. On avait peut-être un pied dans les deux mondes. Maintenant, il a contribué à ce qu'on soit tous là, sur le même registre. Donc, c'est un geste de très grande confiance que la communauté mondiale a fait envers le Canada. Et ça, c'est vraiment, vraiment un actif essentiel. Parce qu'encore une fois, vous savez tous ça, ça veut dire des gens de grande qualité qui vont vivre chez nous,
mm-hmm.
qui vont faire des liens avec des universités, qui vont développer des liens avec des fournisseurs stratégiques au Québec. Alors, tout ça, c'est vraiment très structurant pour le Canada de demain. Et oui, je suis absolument sûr que tout ce qui s'agite au Québec pour attirer des investissements sont maintenant à pied d'œuvre pour tenter de l'avoir chez nous. quelle bonne nouvelle ce serait pour l'économie québécoise. Moi, je pense qu'on a un atout, notamment, par exemple, avec la présence de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il y a un bon écosystème d'entités mondiales au Québec. Donc, moi, je pense qu'on est certainement une cible de choix. On se croise les doigts pour qu'on puisse l'obtenir et que, ben, on crée justement cette nouvelle filière très porteuse sur le plan scientifique et de l'innovation.
Donc ça, Donald, ça ajoute à tout l'écosystème national et provincial et régional éventuellement.
Oui, tu sais, ça créerait de la richesse de plusieurs façons. Évidemment, les emplois qui viennent avec et tout ça, mais tu sais, c'est vraiment la proximité des décisions aussi qu'il ne faut pas négliger. Si l'organisation, elle est chez nous, c'est la fameuse expression « loin des yeux, loin du cœur », c'est pas parce qu'ils nous aiment pas si jamais ils sont ailleurs, mais tu sais, là, ils n'auront pas le choix de connaître l'écosystème québécois parce qu'ils vont vivre dedans. Ou l'écosystème canadien. Fait que, donc, moi, je pense que tout ça, ça vient nous aider puis être sûr de capitaliser le plus possible sur une arrivée d'une organisation comme ça. Là.
Donc, Yvan, parce que l'émission encore file rapidement, mais à ton point de vue, Bécancour, c'est quand même, peut très bien se positionner dans ce nouveau monde, littéralement, en 2026.
Oui, absolument. Et vous savez, j'ai le plaisir de donner des conférences un petit peu partout au Québec aux citoyens ordinaires. Et franchement, ce qui est souvent oublié, c'est Donald vient de le mentionner, on a accès à la mer. Combien pensez-vous que l'Alberta prierait pour pouvoir avoir accès à la mer? Si c'était le cas, elle serait l'Arabie saoudite de l'Amérique du Nord. Donc, et tous ces projets de pétrole et gaz qu'on veut faire circuler chez nous, c'est la seule raison, c'est parce qu'on a accès à la mer. Alors ça, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, justement, du projet de Bécancour, c'est qu'on mise là-dessus, puis on le sait. Et puis, quand on parle, justement, de commercer à travers le monde, ben vous avez un accès par route et vous avez également un accès absolument stratégique par la voie maritime. Et ça, je pense que c'est une reconnaissance d'un atout que je pense les Québécois n'avons pas assez en tête. C'est pas quelque chose qui nous est naturel de dire quel atout avons-nous de pouvoir commercer et utiliser la mer pour échanger avec le reste de la communauté internationale.
Donald, une belle façon de pratiquement conclure cette première émission. Je dis première émission parce que en passant la semaine prochaine, Yvan va être avec nous au parc en 30 minutes, mais je te laisserai peut-être les dernières minutes pour conclure.
Évidemment, je suis d'accord avec Yvan. L'accès à la mer, c'est un privilège inouï. Et puis la semaine prochaine, on va parler du privilège d'avoir l'hydroélectricité puis l'énergie verte. Donc, peu d'endroits dans le monde ont ce privilège-là aussi. Fait que ça fait la transition vers notre sujet de la semaine prochaine.
Je pense qu'avec deux anciens d'Hydro-Québec, ça va être pas mal énergisant comme discussion. Ça va être pas mal intéressant. Ben, écoutez, déjà terminé cette première émission avec Yvan parce que, comme je le dis, Yvan Clich du Cerium, spécialiste en énergie, sera de retour avec nous pour le Parc en 30 minutes lundi prochain. Donc, ne manquez pas cette émission. Il y aura beaucoup de bons sujets, donc la transition énergétique et la présence et l'importance de Bécancour dans ce nouveau décor aussi. Alors, merci beaucoup, Yvan Clich, d'être prêté à cette entrevue parce qu'on sait que très occupé. Mais comme toujours, Donald Olivier, toujours occupé lui aussi, mais qui prend le temps depuis une soixantaine d'émissions déjà de se rendre disponible pour répondre aux questions, mais aussi informer les gens. Merci beaucoup, Donald. Et Donald, j'ai sûrement hâte de retrouver Yvan pour la prochaine émission.
J'ai hâte à la suite des discussions.
Bon, alors, c'est déjà tout pour cette première émission avec Yvan Clich. Alors, c'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne fin de journée, mais aussi une bonne semaine. Et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Parc en 30 minutes avec encore Yvan Clich du Cerium et Donald Olivier de la SPIB. Bonne semaine à tous.